Sur une proposition des services de l'État, Radio Libre en Périgord vous présente un grand débat en quatre volets sur les addictions. Aujourd'hui, le deuxième volet nous conduit vers l'addiction à l'alcool, préparé et présenté par Aïda De Gex, Anthony Terrade et Christian Dardelet. Et tout de suite, la présentation de nos invités en studio. Madame Sophie Trouvé, je vais le prendre tout simplement dans l'ordre du plateau. Vous êtes représentante de la préfecture de police de Dordogne. Vous êtes chef du bureau de la sécurité routière. Bonjour.
Oui, bonjour. Donc, je rectifie, c'est la préfecture de la Dordogne, tout simplement.
Tout simplement.
Voilà. En chef de bureau de la sécurité routière au sein du cabinet de monsieur le préfet à la direction des sécurités.
J'ai à ma gauche Chantal. Chantal, vous avez accepté de témoigner. Vous avez, vous êtes tombée, non pas dans la potion magique, mais dans l'alcool à un moment donné. Vous êtes une repentie, vous.
Oui, bonjour. Oui.
C'est-à-dire que l'alcool, pour vous, c'est fini.
Oui.
Alors, on va en parler tout à l'heure. Par téléphone, tout à l'heure, on aura le témoignage de Monsieur Jean-Yves Bonnemazou, qui est de la prévention de la sécurité routière, qui fait partie de l'association Maison Sécurité Routière Aquitaine. Et en deuxième partie, d'ici une demi-heure, eh bien, on va essayer de le joindre par téléphone. Et puis, bien sûr, Aïda, qui est à côté de moi, bonjour.
Bonjour.
Et puis, notre animateur et technicien Anthony Terrade, mais lui, il va intervenir également, car Anthony va témoigner sur les collatérales, en fait, de l'alcool. Lui n'est pas tombé dans la potion magique, mais par contre a subi, au niveau familial, un certain nombre de problèmes, et il va nous en parler. Anthony, bonjour.
Bonjour, tout à fait.
Alors... Quand j'ai dit, j'ai voulu un petit peu faire un peu d'humour à comparer avec la potion magique. Le mois dernier, nous avions fait un volet sur les drogues. Là, l'alcool est un fléau qui n'est pas nouveau. Je pense qu'à travers les siècles, Madame Trouvé me regarde avec un petit sourire. C'est pas nouveau, et encore moins en Dordogne, à la campagne encore plus. C'est pire qu'en ville ?
Non, je pense pas que ce soit pire en ville, mais c'est peut-être moins... Enfin, pour les usagers, c'est peut-être difficile à accepter de se dire qu'après un bon repas, on est vigilant si on doit reprendre la route. Voilà.
Alors, c'est vrai qu'un apéritif, on fait un bon repas et en Dordogne, un canard, évidemment, avec truffé, avec quelques cèpes,
et puis interdit.
On l'arrose, et puis il y a un petit digestif... Et là, il faut rentrer chez soi. Et c'est là que ça pose problème.
Oui, effectivement. C'est notre difficulté au quotidien. Mais voilà, avec de la prévention, on essaye de rappeler les effets néfastes de la conduite après une prise d'alcool importante. Donc peut-être rappeler les taux, déjà, le seuil légal.
Voilà. Alors justement, j'allais y aller dessus parce que quand j'avais 20 ans, moi, je l'ai connu à 0,8 g. Oui. Maintenant, c'est 0,5 g.
Alors c'est 0,5 g par litre de sang.
Voilà. Voilà. Alors, pour nos auditeurs, parce qu'ils sont quelquefois un petit peu étonnés lorsqu'on reprend le permis suite à un contrôle, ils ont été contrôlés à 0,26 et on dit « Ah ben non, mais j'ai droit à 0,5 ». Alors, il faut faire quand même la distinction. L'alcool en grammes par litre de sang, voilà. Et l'alcool en milligrammes par litre d'air expiré. C'est
voilà.
Tout à fait différent. Il y en a un,
voilà.
C'est dans l'air et l'autre, c'est
voilà.
Dans le sang.
C'est ça. Et souvent, dans l'air, c'est parce que c'est suite à un test d'alcoolémie par éthylotest.
Voilà.
Éthylomètre aussi.
Alors, je rassure également les auditeurs, si vous venez de prendre un whisky, vous soufflez dans le truc 10 secondes plus tard, il vire. Automatiquement, il y a des vapeurs.
Oui, on dit qu'à jeun, il y a un quart d'heure après, l'alcool est dans le sang, quoi. Et après, si on absorbe l'alcool pendant le repas, il faut compter une heure où là, le taux d'alcool arrive à son taux maximal.
Alors, il y a également des non-dits. On va commencer par ça, parce que là, je pense que ça va animer un petit peu le débat. Il y en a beaucoup qui disent « Ah ben oui, mais moi, je ne prends pas de whisky, je prends de la bière ». Alors, il faut savoir qu'on travaille en unité d'alcool. Là, je suis en train de faire votre boulot, mais vous allez pouvoir, oui, justement, si je dis une bêtise, vous allez pouvoir me reprendre, que 4 centilitres de whisky ou d'alcool fort, comme le gin, comme la vodka, à 42, 43 degrés, eh bien, quand vous prenez un demi de 25 centilitres de bière, vous avez la même quantité d'alcool. Et encore, si vous prenez des bières normales, entre guillemets, si vous prenez des bières fortes à 13, 14, 15 degrés, bah, vous multipliez par 2, je crois, le taux d'alcool.
C'est ça. Oui,
bon,
c'est ça.
J'ai pas dit de bêtises pour l'instant. Alors, on a l'idée, comment on vient à l'alcool en dehors des repas? Et là, je vais me tourner un petit peu vers Chantal.
C'est-à-dire qu'on arrive dans la vie où on a envie de ne pas voir ce qu'on a en face. Donc, on voit une bouteille et puis on prend un verre, deux verres, trois verres. Et puis, on ne voit pas ce qu'il y a en face. On est dans notre monde.
Alors, vous allez dire, c'est pour oublier.
Oui, au début, c'était pour oublier. Au début, c'était pour évader un peu de ma vie, parce que, bon, je ne vais pas raconter toute ma vie, mais j'ai eu un mariage assez difficile, donc j'étais amenée à vouloir m'évader de temps en temps, et la seule chose que j'ai trouvée à m'apporter, c'était l'alcool. Donc, j'ai commencé, mais pas tous les jours, j'ai commencé, c'est-à-dire une fois par semaine, à vouloir voir un jour où je ne voyais pas tout ce qu'il y avait en face de moi.
Est-ce qu'on aime l'alcool dans ces cas-là? Est-ce que c'est exactement, moi, si vous me mettez un chapon avec une bonne crème, etc., qu'est-ce que c'est bon, mais est-ce que quand on est addict, quand on tombe dedans, est-ce qu'on apprécie l'alcool?
Alors, il faut dire que bon, toute personne qui boit apprécie un alcool en soi. Mais moi, dans mon cas, je n'aimais pas l'alcool du tout. Je me pinçais le nez pour avaler parce que c'était pas bon.
Ah oui.
Oui. Mais arriver à un verre, deux verres, après tout passe.
Il paraît que certains addicts arrivent à un point, s'ils n'ont pas d'alcool buvable, ils vont prendre du parfum.
Non, ça m'est pas arrivé.
Mais vous avez déjà entendu ce genre de cas?
Nous, on l'a pas forcément vu, hein, dans nos. Parce qu'après, nous, on étudie. Enfin, on étudie après la problématique de l'alcool, mais au volant, donc je peux pas savoir si
Chantal,
c'est le parfum qui a été.
Vous conduisez, vous?
Non.
Ah, bah déjà, c'est déjà un bon point.
Oui. On parle de ce mot addictologie, mais dans ce cas-là, je pense que souvent la personne ne prend même pas conscience.
Alors, non. Voilà, ce qui m'a aidé à m'en sortir, c'est le moment où je me suis dit, tu es addict à l'alcool, tu es une alcoolique.
Mais à quel moment ça arrive, hein,
très, 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 très loin. Papa, au début, on dit, oh, moi, j'en ai besoin, un verre, deux verres, c'est pas bien méchant, c'est pas tous les jours. Mais arrivé à un certain stade de ma vie, c'était pratiquement tous les jours. Parce qu'il fallait que je m'évade, parce que je voulais plus voir ce qu'il y avait en face de moi, donc j'avais besoin de m'évader. Et le seul truc, c'était l'alcool. Mais disons que quand on arrive à un certain taux d'alcoolémie, enfin, d'être addict à l'alcool, c'est qu'on commence tard. C'est-à-dire, on va commencer un premier verre à 5h du soir, à 17h, enfin, le soir. Après, il arrive qu'on en a besoin le midi. Donc, on prend une cuite le midi. Bon, ça redescend. On reprend une cuite le soir. Et bon, inutile de vous dire que la santé, c'est pas bon non plus. Mais après plusieurs années d'alcoolémie, on arrive le matin où on a besoin de son verre. Moi, je buvais pas à jeun. C'est-à-dire, bon, je prenais mon café et tout. Mais arrivé une demi-heure après mon café, il me fallait mon verre d'alcool. Bon, sachez que je buvais pas d'alcool fort, mais tout alcool, c'est de l'alcool. Je buvais du rosé, de la bière, tout comme ça. Quand je buvais l'alcool fort, c'est parce qu'il y avait que ça. Mais c'est très dur à vivre, c'est très dur. Le problème, c'est que j'ai été mariée, mais j'ai des enfants. Et cacher à ses enfants qu'on boit, c'est pas évident. Parce qu'arrivé à un certain âge, ils voient qu'on change de comportement. Et moi, je peux dire que j'ai eu bien 25 ans d'alcoolémie. Bon, pas tous les jours, bien évidemment. J'ai eu à une période de 3 ans où là, oui, effectivement, c'était vraiment l'alcoolique pure. Le matin, je buvais jusqu'au soir et tout. Je me réveillais le matin. Heureusement, j'avais pas le manque. Je tremblais pas. Mais mon corps demandait. Et c'est dur à vivre parce que, bon, on voit. C'est au moment où j'ai vu le regard de mes enfants et je me suis dit, là, t'as un problème. Et j'ai mis, un matin, je me suis levée, je lui ai dit, une alcoolique, il faut que tu arrêtes. Parce que j'avais plus de raison, puisque j'étais séparée du père de mes enfants. J'ai mis quelques temps à me remettre de ça, donc j'avais besoin d'alcool pour me stabiliser, parce que c'était pour moi un confort. C'est devenu un confort parce que j'en avais besoin. Et quand je me suis stabilisée, j'ai retrouvé une vie normale, un matin, je me suis regardée dans la glace et je me suis dit, stop, il faut que tu arrêtes. Tes enfants ne te parlent plus parce qu'ils te traitent d'alcoolique. Donc à un moment donné, choisis ta vie d'alcoolique où ça ne mène à rien, puisque je rejetais une image qui n'était pas la mienne. Je le savais très bien. Je me détériorais, le foie n'avait pris un coup. Et donc, du jour au lendemain, j'ai dit, j'arrête l'alcool.
Et c'est facile d'arrêter de jour à
l'heure. Pour moi, ça a été facile. Par contre, on me demande d'arrêter de fumer, je ne ferai pas. Mais l'alcool, ça a été fait.
Oui, mais alors, là, c'est pas...
C'est juste...
C'est dangereux
dire, voilà.
Pour la santé de fumer, aussi, je crois, oui, mais aussi. Pour le reste, non. C'est pas encore interdit. c'est un témoignage particulièrement poignant. C'est vrai que ça méritait de ne pas intervenir, de vous laisser expliquer. On se retrouve tout de suite après la première coupure musicale.
Yeah.
Dans le témoignage qu'on vient d'entendre de Chantal, eh bien, il y a eu des mots cités d'alcoolique. Et il y avait une petite précision quand même à ajouter, était que vous imaginez que l'alcoolique, il est ivre en permanence. Il y a une autre forme de l'alcoolisme qu'on appelait, ou je ne sais pas si on l'appelle encore maintenant, l'alcoolisme mondain. Eh bien, la personne qui paraît tout à fait droit comme un i, comme on va dire, qui se prend ses trois apéritifs tous les soirs, qui est positif pour prendre la voiture et qui ne donne pas l'impression d'être ivre. Hein. Il ne faut pas mélanger l'alcoolisme et l'impression d'être ivre. Alors, on va revenir un petit peu vers la préfecture. Au volant, bien sûr, c'est là où on voit la mortalité, on voit l'effet direct. Je ne parle pas de l'aspect médical, mais l'aspect direct sur nos routes. On va revenir un peu sur la réglementation. On a dit 0,5 g d'alcool par litre autorisé, mais pas pour tout le monde.
Oui, effectivement, il faut rappeler que pour les jeunes conducteurs notamment et les personnes qui seraient en permis probatoire, le seuil autorisé est de 0,2 g, je répète, par litre de sang.
Et pour combien de temps ?
Donc pendant 3 ans. Puisqu'il faut 3 ans pour récupérer son permis, on va dire, ses 12 points, ou 2 ans si on a fait l'apprentissage anticipé de la conduite.
Alors, justement, puisque là vous êtes également, il n'y a pas que la répression, c'est ce qu'on m'avait dit en off, il y a aussi le côté éducatif, vous intervenez en collège, en lycée, dans des organismes d'apprentissage. Est-ce qu'il n'y a que les jeunes qui sont dangereux ?
Et non, il n'y a pas que les jeunes. On a, nous, une grosse part de mortalité, malheureusement, cette année, à cause de l'alcool routière. Je parle, bien sûr, au niveau des 35-55 ans. Donc, une tranche d'âge qui n'a pas eu la prévention que peut avoir, à l'heure actuelle, les jeunes, qui ont quand même bien intégré le fait qu'après une soirée festive, un jeune, qu'on nomme plus communément Sam, c'est celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, qui ramène ses petits copains. Et peut-être que pour cette tranche d'âge, 35-55 ans, il y a cette pédagogie à apporter.
Alors là, chez les jeunes, ça marche. Le côté Sam, ça marche.
Nous, chez les jeunes, on s'aperçoit que ça marche, puisqu'on n'a plus, depuis quelques années, cette accidentalité mortelle suite à prise d'alcool au niveau des jeunes. Donc c'est vrai qu'on a un module lycée qu'on aborde dans les classes de première. On essaye d'aller dans tous les lycées du département de la Dordogne et dans tous les CFA grâce à nos intervenants départementaux sécurité routière, nos bénévoles qui abordent la thématique notamment de l'alcool au volant. Suite à une soirée festive, on part malheureusement d'un accident grave qui a eu lieu il y a quelques années en Dordogne où malheureusement on a eu le décès de 3 jeunes.
Donc on
s'est dit là il faut parce que toutes les thématiques étaient un petit peu liées, la fatigue, l'alcool, la vitesse, c'est vrai que le volet alcoolémie est abordé avec nos intervenants départementaux sécurité routière et les forces de l'ordre, mais qui interviennent dans le cadre de la prévention et non pas de la répression. Voilà.
Bien.
Pour rappeler les dangers de l'alcool, puisque finalement...
Alors vous leur dites quoi aux jeunes pour les sensibiliser ?
En fait, déjà on leur rappelle que, mine de rien, sur nos routes, c'est un accident mortel sur 3 qui est lié à l'alcool. Et après, on va leur rappeler les risques réels. Donc c'est le champ visuel qui est rétréci, c'est la perception du relief, de la profondeur et des distances de sécurité qui est modifiée. C'est la sensibilité à l'éblouissement, par exemple, qui est plus importante. La vigilance, la résistance à la fatigue qui diminue. La coordination des mouvements, elle est perturbée. Et surtout, avec les jeunes, ce qui marche bien, c'est l'effet désinhibant de l'alcool, en fait, qui amène le conducteur à sous-évaluer ses risques et surtout à surestimer ses capacités. Donc nous, on va beaucoup insister sur les risques réels déjà liés à l'alcool. Et après, on va essayer de leur donner aussi des outils pour essayer de retenir, des fois...
Ce qui est particulièrement étonnant, c'est que là, ça marche, parce que le mois dernier, quand on a parlé du cannabis, et on a eu un témoignage notamment, c'est interdit, justement, on le fait parce que c'est interdit. Là, vous n'avez pas du tout la même problématique, vous avez jeunes qui sont réceptifs et qui disent « ah bah oui, ça peut être... »
Ce qu'il y a, c'est que nous, on ne leur dit pas forcément qu'il ne faut pas boire. Nous, on leur... Enfin, même s'il faut être en termes de sécurité, de la santé, je n'aborderai pas ce sujet, je pense qu'un médecin le ferait bien mieux que moi. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y a un groupe d'amis, des fois ils sont, on va dire, 4-5. Et ben, une semaine sur 5, finalement, il y a un jeune qui ne boit pas, qui est sobre et qui est plein de conscience et qui peut ramener ses camarades chez eux. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque verre consommé augmente le taux d'alcool de 0,20 g à 0,25 g en moyenne. Donc finalement, voilà, c'est ce qu'on disait, un verre et encore un verre quand on respecte les doses barres.
Oui.
Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi maison, qui sont chez soi.
À la maison, il n'y a pas le doseur.
Voilà, oui, et c'est peut-être le problème qu'on a aussi avec notre tranche d'âge 35-50 ans.
Celui qui vous dit « j'ai pris qu'un whisky, mais qui a mis un verre complet », évidemment, oui, c'est pas la même chose.
T'es pas très généreux. Voilà. Sauf que finalement, on croit avoir bu un verre de whisky, sauf que finalement, on a déjà pris deux doses barres de whisky. Mm. Vous voyez ce que je veux dire?
Au même titre, alors on parle toujours des alcools forts, au même titre que les verres de vin.
Tout à fait.
Je crois que c'est 16 centilitres un verre de vin, oui, qui est l'équivalent d'une unité d'alcool. Oui, alors, donc c'est la même chose, hein. Vous avez l'impression de ne pas boire, mais c'est pareil. Oui, Anto?
Alors j'ai une question, est-ce qu'on peut appeler alcoolisme quand on boit du vin, quotidiennement, un verre le soir?
Alors là, je ne vais pas m'avancer sur le sujet parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas addictologue, donc je préférerais qu'un addictologue réponde à ce sujet, mais oui, enfin, c'est l'alcoolisme.
Moi, je dirais vous absorbez de l'alcool de la même manière.
Ouais,
maintenant, ce n'est pas un verre de vin qui, à mon avis, rend addict. C'est plutôt un litre de vin, mais certainement pas un verre. Parce que les gens qui sont alcooliques au vin, c'est des doses qui, parfois, vont déjà bien au-delà, jusqu'à 5 litres de vin par jour. Hein. Donc, je pense pas. Au contraire, je crois qu'un médecin vous dira, puisqu'il y a quelquefois des médecins qui viennent ici, vous diront qu'un verre de vin rouge, c'est très, très bon, ne serait-ce que pour l'intestin et pour la digestion. Donc, je ne pense pas, là. Mais alors, oui.
Quand vous dites un verre de vin, c'est... Moi, je me souviens, quand j'étais à la maternité, on nous proposait quand même un verre de vin, tous les midis.
Oui.
Bon, je buvais pas à cette époque-là, mais bon.
Oh, c'est pas mal. C'est, au moins, le gamin, il y bouge.
Après, ce qu'on dit beaucoup aussi à nos jeunes quand on va dans les lycées ou même maintenant déjà en collège, on commence à aborder la thématique, c'est que, comme tout à l'heure, je vous disais, le taux d'alcool augmente très vite, mais par contre, il diminue très, très doucement, en fait. Hein.
C'est
0,10 g à 0,15 g en une heure. Donc, c'est vrai que des fois, quand on s'alcoolise assez longtemps, en soirée, même au milieu de la nuit, eh ben, on se dit « Ah, ben, on va rester une heure tranquille, etc. » Sauf que tous les verres absorbés, finalement, on reprend le volant vers 6-7 heures du matin, mais on est encore alcoolisé. En fait, on est encore au-dessus du seuil autorisé.
Alors, pour nos auditeurs, précisons quand même que quand on vous dit entre 0,10 et 0,15 grammes de chute par heure, ça dépend de votre foie.
C'est ce que
j'allais dire. On est inégaux, là encore... Bien qu'on dit toujours que tout le monde est pareil, mais non, il y a des fonctionnements différents, il y a des gens qui vont, entre guillemets, que le foie va distiller plus vite que les autres, alors que d'autres, des fois fatigués également, quand vous avez un grand âge, c'est un petit peu plus long que chez les jeunes.
C'est ça, l'état de santé, le degré de fatigue, le stress aussi, et tout simplement les caractéristiques physiques de la personne...
Alors, une petite précision au niveau médical, quand même, juste à citer. Vous dire évidemment que l'alcool, c'est pas bon, et en grande quantité, ça conduit à la mort également. Il n'y a pas besoin d'être en voiture pour mourir. Ça donne quoi? Ça donne une cirrhose, ce qu'on appelait avant le cancer du foie, élégamment. Dans une famille, pour cacher que on avait un proche qui buvait, on disait il a un cancer. Mais il n'y a pas que ça. Ça donne des dépressions, ça donne des suicides, et ça conduit dans les grandes quantités, de toute manière, à une mort prématurée. Il faut quand même le rappeler. Alors au niveau des chiffres, Aïda, c'est Madame Chiffre de RLP. Qu'est-ce que tu avais ajouté?
Je ne vais pas dire grand-chose, tout simplement que, apparemment, toutes les catégories sociales sont touchées par cette addiction à l'alcool en France. Et selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'alcool serait à l'origine de 15 à 20% des accidents professionnels, aussi absentéisme et conflits au travail, sans parler de tous ces problèmes liés à l'hospitalisation, parce qu'apparemment, un hospitalisé sur cinq aurait déjà des difficultés avec boisson alcoolisée.
Si je puis me permettre, je vais rebondir sur les chiffres, tant qu'on est sur les chiffres. Donc effectivement, en 2018, la présence d'alcool a été relevée dans 34 de nos accidents, donc 33 en 2017. Donc vous voyez, c'est des chiffres qui restent constants. Ça a représenté 10 tués sur l'accidentalité, 49 blessés. Alors c'est des petits chiffres en Dordogne, mais c'est justement important de le souligner. Il y avait 7 conducteurs, un piéton. Donc vous voyez, même piéton alcoolisé... Ben, il était en dehors du trottoir et donc, vous voyez, c'est un impact même en agglomération.
Il n'y a pas qu'en voiture.
Voilà, c'est ça. Et en 2019, l'alcool est déjà présent dans 33 de nos accidents, alors que l'année n'est pas finie. Donc, c'est 20% de nos accidents, donc c'est assez conséquent. Donc, vous voyez, on a quand même du mal à faire diminuer cette thématique. Et c'est déjà 7 tués. Et c'est plus de 41% de nos tués cette année, en 2019, à cause de l'alcool. 33 blessés, des blessés hospitalisés, enfin voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va s'attacher à travailler beaucoup au niveau du risque routier professionnel, puisque vous venez d'en parler. Et on travaille avec différentes entreprises, différentes administrations, pour aussi aller vers les salariés et leur expliquer la problématique de l'alcool au volant.
Alors on va avoir justement un autre son de cloche après la pause musicale, puisqu'on aura par téléphone M. Jean-Yves Bonnemazou, qui est de l'AMSRA, c'est-à-dire qui est dans la prévention sécurité routière, vous devez le connaître je suppose, et on va essayer de le joindre tout de suite après la pause musicale.
Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Je me sens si envoûtée que ma maman me dit ralentir les yeux, amour, tu le sauras un jour. J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en me sort lentement dirigé sensualité. Stop, un instant, j'aimerais t'abonner ta sensualité. Il paraît qu'après quelque temps, la passion s'affaiblit. Pas toujours apparemment. Et maman m'avait dit ralentir des yeux. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop, un instant, j'aimerais que ce moment vive pour de ta main.
Alors, comme prévu, on a M. Jean-Yves Bonnemazou par téléphone. Monsieur, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, on est dans cette émission, on est accompagné d'une représentante de la préfecture de Dordogne qui est à la sécurité routière, qui est chef du bureau de la sécurité routière à la préfecture, qui nous a déjà un petit peu donné... au niveau de la PREF, qu'est-ce qu'ils avaient comme action, à la fois répressive mais également éducative? Vous êtes plutôt une association pour l'éducation des gens, pour justement la prévention.
Oui, nous intervenons essentiellement dans le domaine de la prévention. Bon, il est certain que parfois, à la demande de la préfecture, nous intervenons dans des missions particulières qui sont des alternatives à la poursuite, mais c'est tout à fait épisodique. Essentiellement, nous, c'est la prévention, que ce soit auprès des jeunes, c'est-à-dire les collégiens, lycéens, ou en université, que auprès des entreprises, donc en fait des adultes, ou même au niveau des seniors, donc dans les clubs de troisième âge, ou les CCAS.
C'est-à-dire que vous allez seul ou à plusieurs pour dire un petit peu les méfaits de l'alcool et comment il faut réagir.
Alors, tout à fait. C'est-à-dire qu'on indique aux gens, en fait, les effets de l'alcool, les risques de l'alcool, en leur précisant bien que nous ne sommes pas une ligue anti-alcoolique, mais qu'en fait, nous sommes là pour les informer sur les dangers que représente l'alcool, et en particulier l'alcool en matière de conduite automobile, ou même en se servant de machines ou d'engins particuliers.
Alors quel est le... Alors justement, on va y venir parce qu'il y a des... Effectivement, il y a des casques qui existent maintenant qui retracent un petit peu la vision que l'on peut avoir avec de l'alcool, des visions floues, etc. Mais dans un premier temps, la première question, pour vous, la plus difficile à convaincre, c'est les jeunes, c'est quelle tranche d'âge qui est la plus récalcitrante? Ah ben oui.
Alors, là, vous me lancez sur un sujet. Moi, les personnes les plus difficiles à convaincre sont essentiellement les jeunes filles. Parce que on est actuellement dans une période où on parle beaucoup d'égalité, et les jeunes filles confondent égalité et identité. Or, biologiquement, un homme, une femme ne sont pas identiques. Et à ce niveau-là, les jeunes filles qui veulent boire autant que les garçons, parce que elles ne voient pas pourquoi elles ne boiraient pas autant, en fait, physiologiquement, mais elles vont être beaucoup plus rapidement atteintes par l'alcool qu'un garçon. Alors, je parle en poids, taille, âge identique, mais déjà, généralement, les jeunes filles sont moins corpulentes que les jeunes gens. Je prends l'exemple toujours, en général, dans tous les collèges, dans tous les lycées, il y a, compte tenu de la mixité, généralement, un grand garçon, rugbyman, baraqué, hein, si je puis m'exprimer ainsi, qui a pour copine une jolie petite jeune fille, hein, qui fait la moitié de son poids.
La Reine des Neiges face à Balou.
Voilà. Voilà. Et à ce moment-là, eh bien, j'essaie de leur expliquer qu'en fait, l'alcool, c'est vraiment pas leur copain. Et c'est justement le grand danger, c'est les jeunes filles. Les garçons, malheureusement, ils sont souvent un peu inconscients et ils croient qu'ils sont omnipuissants. Hein, vous savez, c'est un jeune qui m'avait dit qu'à cet âge, il était immortel. Ben oui.
Ah, c'est bien connu.
Voilà.
Et avec la population âgée, vous avez quel accueil?
La population âgée est souvent surprise parce que, bon, un petit exercice que je leur fais faire, c'est simuler de servir un apéritif, un alcool fort, genre whisky, et de s'apercevoir qu'en fait, leur générosité est extrême au niveau des apéritifs. Et ça les surprend énormément, et ils sont étonnés de voir que, mais en étant des gens qui reçoivent aimablement, mais ils mettent les gens en danger.
Alors c'est vrai que le fameux traditionnel repas de chasse où on fait chabrot et qu'il y a le petit verre de gnôle à la fin, évidemment c'est pas terrible non plus pour le taux d'alcoolémie.
Ben alors je vous dirais que si on ne prend pas le volant,
oui,
si on le fait une fois de temps en temps, ma foi, on est, comme vous vous dites, on est bon vivant.
Tout
mais
à fait.
Si on renouvelle ça en permanence, ça, là on arrive à l'addiction. Et l'addiction qui est en fait le fait de ne plus pouvoir se passer d'un produit, en réalité non pas en cherchant le plaisir, mais en cherchant à éviter le déplaisir de ne pas consommer, ce qui est l'inverse du plaisir.
Alors on a eu effectivement dans la première partie de l'émission une personne qui a témoigné exactement dans ce sens-là. Vous êtes confronté quelquefois à des gens qui boivent Ils ne s'en rendent même pas compte, d'ailleurs, qu'ils sont addicts et qu'ils sont prêts à n'importe quoi, même s'ils n'ont pas d'alcool sous la main, de boire n'importe quoi.
Alors, ça arrive davantage de tomber sur des gens qui sont inconscients du fait qu'ils sont alcooliques. Et avec un côté qui est souvent de dire « oui, mais moi, je tiens bien l'alcool ». Mmh. Alors ça, c'est très difficile parce que ce sont des gens qui n'ont absolument plus aucune conscience de l'état dans lequel ils sont. Et même si apparemment ils parlent bien, ils semblent être, ils sont quand même atteints par l'alcool. Au niveau trouble de vision, au niveau réflexe, il y a immanquablement des effets, même si, comme ils disent, ils tiennent bien l'alcool.
Alors, je vais revenir au début de l'émission. Vous aviez dit que vous interveniez également dans des alternatives à la sanction, c'est-à-dire que vous faites des stages pour des gens qui avaient un petit peu trop d'alcool au volant.
Mais alors, généralement, ce sont des petites infractions. Maintenant, il faut reconnaître que l'alcool au volant, c'est fait partie des choses où il n'y a pas tellement de mansuétude. Donc c'est davantage, si vous voulez, des actions, des téléphones au volant, des ceintures mal mises, des petits excès de vitesse, puisqu'en fait, là, c'est en accord entre le préfet et le procureur, où certaines petites infractions sont susceptibles de passer par là. Une alcoolémie, alors on sensibilise les gens sur l'alcoolémie au cours de ces actions, pour justement qu'ils ne se fasse jamais arrêter dans ces conditions, mais généralement, l'alcool est assez mal vu. L'alcool, drogue, ce sont des choses qui sont relativement peu amnistiées par les forces de police, hein, les forces de l'ordre. Après, au niveau, là je vais rentrer dans un sujet un peu délicat, disons, au niveau judiciaire, semblerait qu'il y ait un peu plus de mansuétude dans certains cas.
Oui, si c'est la première fois, notamment.
Mais vous savez, j'ai en tête un accident qui est arrivé, où un chef d'entreprise au volant d'une voiture puissante a heurté la petite voiture d'une mère de famille avec ses deux enfants. Et malheureusement, la mère de famille et les deux enfants ont été tués. Ce monsieur était connu pour ses excès de vitesse et sa consommation d'alcool, où il avait déjà été arrêté plusieurs fois. Peut-être qu'on ne lui a pas tapé assez fort sur la tête antérieurement.
D'accord. Donc vous pensez que la réponse pénale doit être à la même hauteur pour que dans tous les cas, on stoppe le phénomène?
Voilà. Vous savez, moi c'est un commandant de gendarmerie qui m'avait dit effectivement qu'ils étaient, eux, la dernière action de prévention. Avant la sanction.
Vous travaillez avec des médecins également ?
On travaille avec des médecins. On en a un qui est membre de notre association.
Oui.
Donc, effectivement, on a développé certains modules, justement, avec l'appui de ce médecin, de façon à faire des présentations en matière d'alcool, drogue, puisqu'effectivement, là, on touche alcool, drogue, on touche aussi au sommeil, somnolence, ce qui sont des éléments générateurs de risques sur la route.
Alors, est-ce que vous intervenez exclusivement sur demande de la préfecture, ou est-ce que il y a des gens qui peuvent venir vous voir?
Alors, nous avons énormément de gens qui viennent nous voir, puisque, bon, au départ, si vous voulez, l'association a été créée avec des personnels IDSR, c'est-à-dire intervenants départementaux de sécurité routière, qui sont nommés par le préfet. Mais on a acquis, en tant qu'association indépendante, on a acquis une certaine notoriété, ce qui fait que maintenant, avec le bouche à oreille, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, on a de plus en plus de personnes qui viennent nous voir, que ce soit des entreprises, des comités d'action sociale, etc., etc. On commence à être connu dans les collèges et lycées, et on intervient à la demande.
Vous êtes basé où?
Pardon?
Vous êtes basé où?
Alors, pour l'instant, nous sommes basés à Lormont. Nous sommes en cours de déménagement en ce moment, puisqu'on va se déplacer, on va aller à La Traîne, compte tenu, malheureusement, de la fermeture d'un local qui était fort bien, qui était la maison de sécurité routière, qui malheureusement, par décision préfectorale, est fermée, ce qui est regrettable.
On va rappeler simplement votre numéro de téléphone à l'antenne, donc l'AMSRA, Association Maison Sécurité Routière Aquitaine, au 05 56 52 63 58. Monsieur Jean-Yves Bonnemazou, je vous remercie de votre témoignage et je pense que vous avez apporté pas mal d'eau au moulin. D'ailleurs, Madame Trouvé de la préfecture, apparemment, n'a même pas intervenu. Vous a laissé dire parce que vous avez dit exactement les mots qu'il fallait. Je vous remercie beaucoup.
Alors, écoutez, je connais très bien cette personne puisqu'effectivement, nous avons eu l'occasion de travailler ensemble.
Oh, et puis elle est charmante, elle a de beaux yeux en plus. je vous remercie beaucoup.
Exact.
Je vous remercie beaucoup.
Vous avez le beau rôle, vous êtes à côté d'elle.
Ben justement, j'en profite. Merci. Okay. Merci beaucoup.
Avec mon cœur, il triche avec ma vie, il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bonbons mentent, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois.
Je peux vous dire qu'en off, la discussion est animée, hein, parce que tout le monde a des choses à dire. C'est vrai que Madame Trouvé, elle me dit « Ah mais j'ai pas dit ça », mais elle va avoir la parole, on a encore un petit peu de temps. Je vais me retourner un petit peu vers Anthony, parce que lui, il avait à la fois travaillé sur des chiffres, et puis également qu'il nous dise un petit peu à titre personnel, parce qu'il a vécu, lui, non pas, il n'est pas alcoolique, pas encore, tout
pas
au moins,
encore. Pas encore, et je n'espère pas l'être,
mais il a vécu des choses familiales. Alors, vas-y.
Alors, avant de parler du côté familial, personnel, j'ai trouvé un texte du livre « L'alcoolisme est-il une fatalité ?» de Philippe de Timari, sur le chapitre « L'alcool et la famille, une histoire complexe ». Donc, ça commence avec « On considère généralement que 40% de la population compte au moins un parent au premier rang présentant une problématique alcoolique ». Donc, c'est pas rien, 40%, c'est à peu près, pas loin des 50% de la population. Après, il y a la sévérité de la problématique va influencer grandement la possibilité de réaction des proches. Dans les meilleurs cas, l'importance de la consommation constitue juste une source d'inquiétude pour la famille qui constate des moments d'excès, parfois seulement épisodiques, des fluctuations d'humeur, une altération de la qualité du contact et des échanges sociaux dans des moments spécifiques d'alcoolisation ou de récupération. Or après, ça mène à violence sur le conjoint ou les enfants, engagement régulièrement bafoué parce que la consommation est devenue le principe directeur de son existence, isolement de la famille de toute vie sociale extérieure, en tout cas au sein du domicile, car la personne qui a dérapé dans la consommation n'est en quelque sorte plus montrable, vécue de honte de la part de l'ensemble de la famille, qui dissimule souvent très longtemps ce qui se passe en son sein. Donc là, ce que je viens de lire, en fait, ça me rappelle. Donc là, on va arriver sur le point personnel. Ce que je viens de lire, en fait, je m'identifie totalement parce que j'ai vécu ça malheureusement avec mon père qui avait des problèmes, on va dire, avec l'alcool, puisque avec cette drogue, je veux dire, parce que l'alcool est une drogue légale.
On en a parlé le mois dernier, justement.
J'ai vu ça depuis mon plus jeune âge où je voyais mon père. Quand ça allait mal, boire et jusqu'à ce que ça aille plus. Ou je me souviens du moment où un jour où ma mère est partie de la maison, aller voir des amis. On était seuls, mes sœurs et moi-même avec mon père à la maison. Et c'était un moment où il commençait à entrer en dépression. Et parce qu'il faut le dire, l'alcoolisme peut venir de plein d'autres situations comme la dépression. Et je me souviens, on était tout seul avec mon père et il avait bu, il a avalé je sais pas combien de bouteilles. il fumait le tabac et il prenait du café. Je me souviens de cette image où il avait une plaquette de médicaments allongée sur le lit avec le café et en train de fumer et la cendre dans le café. Donc, je pense que c'est quelque chose qui marque énormément, qui suit les enfants toute leur vie. Et c'est... Voilà, c'est quand même assez...
Alors là, il y a, Anto, vous venez de témoigner de manière très poignante. C'est vrai qu'on a parlé de l'accidentologie, c'est pas bon pour la santé. Là, c'est le danger, des problèmes collatéraux directs au niveau familial. Aïda, elle a quelques chiffres. Si, je l'ai vu.
Je ne sais plus quel chiffre il faut vous donner, il y a tellement.
Sur la consommation, sur... on a parlé de drogue.
Voilà, apparemment en France, on estime 5 millions le nombre de personnes qui connaissent les problèmes médicaux et des difficultés psychologiques ou sociales liées à la consommation d'alcool. Donc je pense que c'est un chiffre qui va bien avec ce témoignage. Après, je sais que vous voulez parler de consommation de vin, viticulture. Là, je peux faire une petite transition, si vous voulez.
Allez, on va parler, parce que c'est de l'économie également. C'est que l'addictologie à l'alcool est liée aussi à un problème économique. En France, on a des viticulteurs. En off, on avait parlé avec Madame Trouvé tout à l'heure d'un projet de loi qui était proposé par un député qui voulait le zéro alcool, mais il y a le lobby viticulture qui est derrière. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire également?
Étonnamment, finalement, on consomme moins de vin en France. Il y a chute de 20% selon les statistiques de l'Organisation internationale du vin. Je pense que c'est un petit peu lié à cette pression, cette population active qui a besoin de ces permis de conduire pour les déplacements personnels, professionnels, et ça freine même ce verre de midi ou d'apéritif qui reste finalement sous la table, pas touché par la personne.
Indiscutablement, quand on est quatre à aller au restaurant et qu'il y a un ça, mais notamment plus qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui n'acceptent plus de prêter des voitures d'entreprise si la personne au volant boit, donc elle est censée ne rien boire. Une sur quatre qui fait SAM, ça fait 25%, donc on retombe sur tes chiffres, hein. C'est mathématique. Alors c'est vrai qu'on pense aux restaurateurs, aux viticulteurs, il y a une chute effectivement de la consommation, et qui parfois est mal comprise, parce que c'est tout un pan de l'économie aussi qui dépend de boire. Alors au niveau d'une représentante de la préfecture, je suis en train de dire de vous saper complètement le travail en disant mais oui, mais il faut boire quand même un peu pour penser à nos viticulteurs et à nos restaurateurs. Vous en pensez quoi? Il y a un équilibre?
Oui, il y a un équilibre. Nous, ce qu'on veut, c'est encore une fois, c'est qu'on organise sa fin de soirée, en fait. L'organiser, c'est de dire qui ramène tout le monde après la soirée, après la prise d'alcool, voilà. Donc, il y a une personne, effectivement, qui est censée ne pas avoir consommé d'alcool et qui est donc apte à pouvoir conduire dans des conditions normales. Déjà que la conduite demande beaucoup de facultés, hein, de concentration. Donc, si en plus on rajoute un effet néfaste, on ne va pas ramener tout le monde dans les bonnes conditions.
Alors, il y a eu un projet qui, on en parle depuis maintenant un ou deux ans, que les futures voitures, les voitures de l'an 2025 ou 2030, seront toutes équipées d'un antidémarrage éthylique.
Alors, je ne sais pas ce qu'il en sera dans quelques années. En tout cas, je peux déjà vous faire un point de ce qui existe à l'heure actuelle en Dordogne, en préfecture de la Dordogne, puisque depuis le mois de juin 2019... suite à des réunions trail en préfecture avec monsieur le préfet et les procureurs, nous avons mis en place la possibilité, effectivement, une alternative, si vous voulez, à la suspension du permis de conduire quand on est dans le délit, donc c'est-à-dire à 0,8 g par litre de sang. Donc ça entraîne déjà un retrait de 6 points, mais jusqu'à présent, la sanction, c'était une suspension du permis de conduire pendant 6 mois.
Alors c'est vrai qu'il y a une différence aussi de 0,5 à 0,8. Oui. Il y a une différence, voilà. Vous n'êtes pas en délit,
En contraventionnel.
En contraventionnel, voilà.
Voilà, bon. Effectivement. Et donc à partir de 0,8 g, on est en délit. Et donc c'est l'immobilisation normale du véhicule et c'est la suspension, la rétention du permis de conduire par les forces de l'ordre. Et après, une mesure administrative qui suit, c'est la suspension du permis de conduire avant, après la dernière ça va être les juges après qui vont décider. Mais au niveau de la mesure administrative, donc là, l'alternative, c'est donc de proposer, sur certaines conditions, l'éthylotest anti-démarrage, qui est possible comme alternative aux automobilistes qui vont présenter donc une alcoolémie délictuelle relevant du tribunal correctionnel. Donc, si vous voulez, cette EAD est un instrument de mesure du taux d'alcool dans l'air expiré qui va être associé au système de démarrage du véhicule. Donc, il empêche la mise en route du moteur si le taux d'alcool enregistré, finalement, va être supérieur à celui autorisé par la législation. Donc, ça permet finalement de... Monsieur le préfet va prendre un arrêté qui va permettre aux contrevenants de conduire uniquement un véhicule qui sera équipé d'un système EAD en lieu et place d'une suspension administrative. Donc, c'est un bénéfique au niveau social, puisque la personne peut continuer à quand même conduire. Un aspect au niveau professionnel, puisque souvent, on a besoin de son permis pour travailler. En quelque sorte,
voilà. C'est un palliatif au fameux permis blanc qui a été supprimé, qui date d'il y a une dizaine d'années.
C'est ça. Donc, il y a cette possibilité pour le contrevenant de...
S'il n'a pas été trop fort non plus, s'il n'y a pas 2,50 grammes.
Voilà, c'est ça. On a limité à 1,8 grammes maxi.
D'accord. Ce qui est déjà, je rappelle, quand même une dose énorme.
Bien sûr, s'il y a un cumul d'infractions délictuelles, on ne pourra pas proposer l'EAD. Et si, bien sûr, il y a des antécédents et un récidiviste, on va rester sur une suspension du permis de conduire. Voilà.
Alors, ce sont des mesures quand même... moins répressive qu'il n'y paraît, parce que ça permet de ne pas perdre son travail.
C'est ça.
Et puis, on a l'impression que de tolérance zéro, on redevient un petit peu plus cool.
Alors, faut pas... Alors, cool, oui et non, parce que ça a quand même un coût. Hein,
oui.
Voilà. Et donc,
pour le contrevenant, c'est lui qui est équipé.
Le contrevenant va devoir aller chez un installateur qui a été d'ailleurs agréé par le service de préfecture et qui va donc installer le dispositif et qui, bien sûr, va lui coûter chaque mois une location du dispositif.
Ah ben oui.
Voilà.
Alors, moi, j'avais une question à vous poser à tous. Vous avez tous entendu des humoristes à la télévision qui plaisantent avec les fameux alcooliques anonymes. C'est une association. Alors, on a écouté justement le représentant tout à l'heure de l'AMSRA. Les alcooliques anonymes, ça fait toujours un peu sourire. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on peut s'en sortir en adhérant aux alcooliques anonymes?
Alors, personnellement, je pense que toute solution peut être... c'est personnel, je pense. J'ai pas été confrontée à cette problématique de l'alcoolémie, mais... Madame a réussi à s'en sortir seule.
Je vais poser la question à Chantal. Est-ce que ça vous serait venu à l'idée d'aller voir les alcooliques anonymes?
Alors, pour moi, non. Mais il est arrivé que j'ai accompagné quelqu'un aux alcooliques anonymes.
Et c'est efficace?
Alors, moi, la seule chose que je peux dire dessus, c'est que pour arrêter de boire les alcooliques anonymes, c'est pas ça. Mais c'est un soutien parce qu'on parle de son addiction. Mais ce n'est pas suffisant. Après, c'est un soutien psychologique. Ce n'est pas une aide pour arrêter de boire. Ce n'est pas vrai. Parce que la plupart des anonymes, on chute. Il y en a qui peuvent tenir 10 ans. Mais il y en a qui disent, hier, j'ai bu un verre. Voilà, j'en ai bu un, j'en ai bu deux. Les alcooliques anonymes, si, c'est pour parler. C'est un soutien psychologique, mais pas une aide qui va dire stop. Et franchement, moi, mon ressenti... puisque c'est personnel, je dis que toute addiction, ça vient... si on veut arrêter quelque chose, c'est de soi-même.
Après, je pense qu'il ne faut pas négliger le corps médical, qui est quand même... on a des centres d'addictologie avec des addictologues, et on est en train... Il y a une expérimentation qui est faite en ce moment sur deux départements en France qui travaillent justement avec des médecins... le médecin de famille, en fait, pour aussi donner aussi des aides... Parce que le médecin est des fois démuni sur comment aider une personne sur cette thématique. Donc, en fait, on peut quand même, je pense, essayer aussi de se renseigner dans son département pour savoir ce qui peut exister au niveau d'un centre d'addictologie ou d'un médecin référencé qui peut éventuellement aider et accompagner une personne qui a décidé de s'en sortir sur cette thématique.
Alors, justement, je vous écoute parce qu'il m'est arrivé de vouloir aider un membre de ma famille il n'y a pas longtemps. Qui est dans l'alcool depuis 5 ans. Il est très jeune, il a l'âge de mon fils. J'ai téléphoné à son médecin entre-temps, en lui disant que son état était très grave, parce qu'il ne pouvait plus marcher, trembler, enfin, il était vraiment détérioré. Son médecin m'a dit comme ça, bah, écoutez, je vous donne un rendez-vous mercredi prochain, on était déjà mercredi, il y avait une semaine à tenir. Je lui ai dit, vous rendez compte, il est chez sa mère, s'il lui arrive quelque chose qui tombe et tout, qu'est-ce qu'on fait? Amenez-le à l'hôpital. Oui, mais là, on demandait juste qu'on l'aide à s'en sortir, parce qu'il voulait s'en sortir de lui-même, il ne pouvait pas. Eh bien, toutes les portes sont fermées, on ne peut pas aider les gens.
C'est pour ça qu'il y a une expérimentation à l'heure actuelle sur cette thématique, pour aider les médecins traitants qui sont assez démunis sur le sujet, effectivement.
Si le médecin traitant lui-même est compétent.
Alors, une petite intervention également d'Anto.
Alors, justement, pour revenir à ce que Chantal a dit, je reconnais ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire que on cherche à trouver une aide, en fait. On ne cherche pas à forcément se faire soigner, mais avoir un accompagnement, à pouvoir parler à quelqu'un. Et justement, des fois, parler, ça peut suffire, ça peut aider à s'en sortir. Mais c'est quand même... c'est vrai.
Mais ce n'est pas évident aux gens de pouvoir parler de ça, parce qu'une addiction, c'est quelque chose de tabou. On ne peut pas l'avouer. C'est quand on commence à se dire soi-même, ça y est, on est addict.
Mais le problème des alcooliques anonymes, par exemple, c'est qu'il n'y a pas cette intimité que la personne alcoolique voudrait avoir face à face avec une personne. C'est-à-dire qu'on est autour d'un cercle, surtout que moi, en tant qu'alcoolique anonyme, ça me fait surtout penser à une célèbre réplique film, « Le tabac, c'est tabou, on en vient tous à bout et... ».
Oui, et moi, on a reçu plusieurs fois ces associations, différentes directions de ces associations, et je trouvais qu'elles font un travail formidable. Donc voilà, je pense, pour chacun son chemin.
Ils font un travail formidable, mais ils sont assez...
Ça passe très très vite une heure. C'est comme le cannabis, ça s'enflamme à la fin. Justement, le cannabis, je vais y revenir très très rapidement. Chacun, vous me dites... on a dit le cannabis par rapport à l'alcool, pour vous, c'est la même chose? L'alcool, c'est pire? L'alcool, c'est mieux?
Ni l'un ni l'autre sont compatibles avec la conduite.
Oui.
Et alors, le cumul alcool et cannabis fait des dégâts.
On va dire que ça fait boom.
Ça multiplie par 15. C'est pas multiplié par 2.
Ah, c'est pas mal.
Voilà. Donc, en ce moment, on a beaucoup de suspensions de permis de conduire à cause du cannabis, enfin, à cause de la... des stupéfiants, donc non, ni l'un ni l'autre pour nous, la conduite.
Chantal ?
Écoutez, moi je préfère voir quelqu'un qui a fumé un chichon que voir quelqu'un qui a bu une bouteille.
Ah, mais et au volant ?
Alors au volant, non, ça bien sûr, ça je le conçois parce que bon.
Ah, merci mais... Chantal.
Anto ?
Moi, je pense que vaut mieux... Alors, pas sur la route, bien sûr.
J'ai sensibilisé 2 personnes.
Oui, je pense qu'on est tous d'accord. Mais dans la vie, je pense que vaut mieux privilégier le cannabis en soi, parce qu'il apportera moins vite de dégâts que l'alcool. Et l'alcool, c'est vraiment...
Souvenez-vous quand même, il y a un mois, on avait un médecin au téléphone, on avait un représentant de la gendarmerie également. J'ai posé la question, êtes-vous pour ou contre la dépénalisation? Il a dit non, mais c'était pas fermé.
Bien sûr, en disant ça, on n'incite pas les gens à consommer du cannabis. On dit juste que si on devait choisir sur l'un des deux,
ce
serait le cannabis.
Bon, écoutez, je vous remercie. Aïda, elle dit, mais toi, tu bois pas.
Et moi, vous ne demandez pas mon avis.
Alors,
moi, je suis contre cannabis, vraiment contre.
Mais l'alcool, oui.
Mais alcool, raisonnablement,
mais qu'on ne conduit pas. Écoutez, je vous remercie beaucoup à tous d'avoir quand même pris 60 minutes sur votre temps. Madame Trouvé, c'est vrai que c'était un peu difficile. Vous êtes en plus en formation, vous êtes sur d'autres cieux en ce moment. Merci à vous, merci Anto. Chantal, merci de votre témoignage. Aïda également, merci pour cette intervention où elle préfère l'alcool. On le saura à RLP. Je vous remercie à tous. Bonne journée. Au revoir.
Le soir quand je suis pas là.